Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le développement dans les régions frontalières. Le président a transmis les mesures du développement à concurrencer de manière mondiale. Les scouts doivent être novateurs et garder l'unité de la nation. Le général Gatot Nurmantio a dit que l'étranger utilise la question de l'intolérance pour affaiblir l'Indonésie. Et enfin, le ministère de l'Industrie organise l'exposition des produits excellents de l'Indonésie. Voici le journal complet. Lié au développement des régions frontalières au sein du gouvernement Joko Widodo Yusuf Kalla, a produit des résultats concrets et tangibles, en particulier dans les zones frontalières. Le secrétaire de l'Agence nationale de la gestion frontière, BNPP, Hadi Prabowo, dans le dialogue avec la Voix d'Indonésie à Jakarta mardi, a affirmé « Bien qu'il y ait les nombreux obstacles, mais peu à peu, à la fois liés à la construction des infrastructures et des installations sociales de base, l'économie liée au secteur excellent, y compris les installations et la région soutenant, peuvent être déjà réalisées. »
Yang pasti sudah merasakan baik itu kaitannya.
Ce qui aurait été ressenti vraiment, que ce soit lié à l'infrastructure ainsi que lié aux besoins sociaux de base, parce que la région d'Indonésie est très spacieuse, si bien qu'on ne peut donc pas construire l'Indonésie en coupe d'œil. Par conséquent, dans le plan national de développement à moyen terme, ou RPJMN 2015-2019, a confirmé la façon de réaliser la région dans les zones frontalières comme première phase qui est capable d'être des activités socio-économiques avec les pays voisins. Hadi Prabowo a ajouté que le potentiel de la région frontalière est énorme. Cependant, ce potentiel ne doit pas être utilisé de façon optimale. En raison du facteur géographique et une très large gamme de contrôles, mais dans la mise en œuvre des politiques du président Joko Widodo, liées au développement de l'Indonésie de la périphérie en renforçant les régions et les villages pour renforcer l'unité du pays, a produit des travaux réels, entre autres, la construction des routes parallèles dans la région frontalière de Kalimantan, Nusa Tenggara de l'Est et la Papouasie. Ensuite, associé à la souveraineté alimentaire qui a également produit dans le cadre de créer les champs et en ce qui concerne d'autres agricultures comme de Sabang, de Sangihe, a déjà montré que nous avons développé leur industrie de la pêche et le tourisme. Le président Joko Widodo a transmis l'effort de développement qui est effectué par le gouvernement pour être en mesure de rivaliser avec d'autres pays à l'époque millénaire aujourd'hui. Dans une conférence publique à l'Université de Muhammadiyah, Jember, dimanche, le président a dit que ses efforts comprennent le développement des infrastructures dans les différentes régions d'Indonésie. Le président a affirmé que le développement de l'infrastructure qui était fait est une base importante de la nécessité pour être compétitif sur la scène mondiale. Cependant, le président a ajouté les aspects les plus importants qui attirent l'attention du gouvernement sont l'aspect du développement des ressources humaines. En réalisant le développement des infrastructures et des ressources humaines, le président Joko Widodo est optimiste que l'Indonésie sera en mesure de soutenir la concurrence sur la scène mondiale.
dalam menyelesaikan nantinya kita berkompetisi.
Pour terminer, nous rivalisons avec d'autres pays. Nous avons besoin de l'infrastructure, il est fondamental. Pourquoi devons-nous construire les autoroutes, les routes, le port, l'aéroport, construire des centrales électriques? Parce que c'est la clé, clé de base, clé primaire, de sorte que nous avons le concurrentiel. En second, si cela est presque terminé, nous entrerons dans la deuxième grande phase, à savoir le développement des ressources humaines massives. Voilà ce que nous devons faire. Si les deux ont terminé, nous sommes entrés dans la phase de l'industrie, la phase du service, la phase de l'information technologique. Il sera plus facile parce que les bases sont déjà solides. Le gouvernement indonésien est actuellement en course de mettre en œuvre activement le développement des infrastructures dans les différentes régions d'Indonésie. En 2017, le gouvernement a alloué un budget de plus de 300 trillions rupiah pour le développement des infrastructures. Lié au développement des ressources humaines, l'un des aspects qui est actuellement mené est d'améliorer la qualité des étudiants et des élèves par l'enseignement professionnel dans les écoles. À la fin de la conférence publique qu'il a prononcée à l'Université de Muhammadiyah Jember, le président Joko Widodo espère que le public peut connaître les efforts faits par le gouvernement. Selon lui, bien que le développement des infrastructures soit visible, mais le développement des ressources humaines demeure une priorité. Le président indonésien Joko Widodo, en tant que chef de scout indonésien, a donné un discours au 56e anniversaire du scoutisme indonésien et 11e Raimuna du scoutisme indonésien, qui a lieu du 13 au 21 août 2017 au camp de Cibubur, à l'est de Jakarta. Le président a demandé aux membres des scouts indonésiens de ne pas seulement former le grimant, mais il faut faire aussi des percées, de ne pas penser de manière linéaire et de ne pas se coincer dans les routines pour anticiper les changements mondiaux. Selon le président, le devoir de garder les scouts pour avoir toujours un esprit jeune est en fait sur les épaules de la jeunesse indonésienne.
Usia gerakan pramuka semakin bertambah, tapi saya minta semangatnya.
Bien que l'âge des scouts augmente, mais je vous demande l'esprit de rester jeune. Il doit toujours être productif au travail, doit être novateur, doit être créatif et doit toujours être à l'avant-garde de maintenir l'état unitaire de la République d'Indonésie. Le scout doit être le précurseur du changement dans notre pays que nous aimons. Parce que vous devez vous rappeler que le scout est le roi des effets, ce qui signifie qu'il a toujours une jeune âme qui aime travailler. Le président Joko Widodo a affirmé la tâche de garder le scoutisme pour garder les jeunes d'esprit. Et nous devons nous rappeler la génération de scouts et la génération Yé. Et le mode de pensée est différent de la génération précédente. La génération est créative et innovante, générer le sentiment fier de la jeune génération dans leur pays d'origine. Ils croient que la jeune génération de l'Indonésie est une génération supérieure et combattante. Le 56e anniversaire de scout indonésien, également assisté par le 5e président de l'Indonésie, Megawati Soekarnoputri, le commandant en chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, le chef de la police, le général Tito Karnavian, un certain nombre de ministres et membres du Parlement indonésien. Le chef de l'armée nationale indonésienne, TNI, le général Gatot Nurmantio, a déclaré dans un communiqué de presse mardi à Jakarta que le pays étranger était très intéressé à affaiblir l'unité et l'intégrité de l'Indonésie et de diviser le pays. Les pays étrangers utilisent la question de l'intolérance pour atteindre ses objectifs. Par conséquent, la jeune génération d'Indonésie doit être en pionnière dans la mise en œuvre des valeurs Pancasila dans la vie quotidienne. Ainsi, l'unité de la nation doit être maintenue dans l'état unitaire d'Indonésie. Basée sur l'histoire et l'anthropologie culturelle, l'Indonésie, y compris sa jeunesse, est un groupe de guerrières et patriotes. À cette fin, Gatot Nurmantio croit que l'Indonésie ne pouvait pas être divisée pendant que les jeunes appliquent le Pancasila. Le ministère de l'Industrie organise l'exposition des produits excellents indonésiens avec le thème Exploration de la culture indonésienne qui est riche en diversité culturelle et les coutumes et tirée parti des connaissances locales à la valeur économique élevée. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartanto, lors d'ouverture de l'exposition, a déclaré lundi que l'exposition, dans le cadre de la journée de l'indépendance, vise à promouvoir la culture. L'ouverture de l'exposition, qui a été également assistée par l'épouse du vice-président, Mufidah Yusuf Kalla, présente un défilé de mode sous la forme de batik, de tissage traditionnel, la danse traditionnelle, des chansons traditionnelles et la culture traditionnelle typique de l'Indonésie. Airlangga Hartanto a dit, au milieu de la concurrence mondiale, certains produits indonésiens sont capables de compétitivité et contribuent de manière significative au commerce mondial. Il a ajouté que l'excellence de l'Indonésie qui avait été atteinte, entre autres, comme le 14e plus grand exportateur de vêtements dans le monde et 3e à l'ASEAN, avec la valeur des exportations atteignant 7,1 milliards de dollars américains en 2016. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre « Construire l'Indonésie du périphérie ». Le mois d'août est un mois très spécial pour les Indonésiens. Ce mois-ci, précisément le 17 août, il y a 72 ans, l'Indonésie, qui a environ 17 000 îles, a proclamé son indépendance. C'est la lutte de tous les éléments de la nation pour libérer du colonialisme et réguler indépendamment la vie et l'avenir de la nation. Sur la base de sa situation géographique, l'Indonésie borde avec plusieurs pays, entre autres l'Australie, les Philippines, l'Inde, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor-Oriental et le Vietnam. En outre, les Indonésiens évaluent ce que les Indonésiens ont atteint après leurs 72 ans d'indépendance. L'une des préoccupations est le progrès et le développement dans les zones frontalières. En effet, les zones frontalières sont devenues l'un des axes de l'administration du président Joko Widodo. Le développement et la gestion des zones frontalières sont l'agenda prioritaire actuel. Construire l'Indonésie de la périphérie en renforçant les régions et les villages dans le cadre de l'État unitaire se trouve au troisième point de Nawacita, l'ordre du jour des 9 prioritaires du gouvernement. Le gouvernement indonésien développe continuellement des infrastructures dans les zones frontalières. Le président Joko Widodo a affirmé à plusieurs reprises que le pays devait construire les infrastructures dans les régions limitrophes des pays voisins pour maintenir la souveraineté nationale. Même, le président ordonne ses ministres liés au développement de l'infrastructure pour finir tous les plans et programmes en 2019 au plus tard. Le développement de l'infrastructure comme les routes est devenu l'attente de nombreuses personnes dans les zones frontalières, de sorte qu'elles ne dépendent plus de l'approvisionnement des pays voisins. Le sérieux du gouvernement indonésien pour développer les zones frontalières a été vu, du moins par le budget décaissé. Au cours des 3 dernières années, le budget alloué par le gouvernement a continué d'augmenter. En 2015, le budget était de 9,5 trillions rupiah. En 2016, il s'est élevé à 13 trillions rupiah. Et maintenant, il est de 16,9 trillions rupiah. Le développement sur les zones frontalières devrait recevoir une attention particulière car ils sont la première forteresse à résister à l'entrée de choses indésirables de l'extérieur. Le bien-être croissant devrait améliorer encore l'esprit du nationalisme de la société et une forteresse indonésienne plus forte à la frontière. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. En 1948, la création de l'État sud-coréen. En 1910, la péninsule coréenne a été occupée par le Japon. La péninsule coréenne a obtenu son indépendance après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Mais les forces américaines et l'Union soviétique qui ont joué un rôle important d'expulser impérialistes japonais en Corée ont mis leurs troupes respectives dans les régions du sud et du nord avec la frontière de 38 degrés de latitude nord jusqu'à la base de la division de la péninsule coréenne a été formée. La division de la péninsule coréenne en raison de divers facteurs, y compris ensemble les avantages et inconvénients en ce qui concerne la détermination de représentants coréens des Nations Unies, le conflit entre l'aile gauche et à droite et l'atmosphère des tensions de la guerre froide qui domine la péninsule coréenne. Sous la supervision de l'ONU, les élections démocratiques ont lieu dans la Corée du Sud et le 15 août 1948, la Corée du Sud a été établie sous le nom de la République de Corée. Avec l'annonce officielle de la formation de la République de Corée, la péninsule coréenne a été divisée. Le 15 août 1945, les dirigeants de jeunes indonésiens ont tenu une réunion de la mise en œuvre de la déclaration d'indépendance. L'annonce de la capitulation du Japon aux Alliés reçue par des émissions de radio à Jakarta. Avec la capitulation du Japon, signifie que la situation a changé. Le Japon ne gouverne plus l'Indonésie, mais ne sert que de gardien statu quo, à savoir de garder la situation et la condition comme un temps de guerre et interdit des changements en Indonésie. L'indépendance n'a pas pu être obtenue à partir du Japon. Par conséquent, le 15 août 1945, les jeunes dirigés par Khairul Saleh ont rencontré dans le laboratoire de microbiologie à Pagansa en Timur pour discuter de la mise en œuvre de la déclaration d'indépendance sans l'aide du Japon. Dans la réunion aboutit à la décision que, premièrement, insistaient Bung Karno et Bung Hatta de ne plus établir les relations avec le Japon et devraient être consultés avec les jeunes. Deuxièmement, a exhorté Bung Karno et Bung Hatta au nom de la nation indonésienne de proclamer l'indépendance de l'Indonésie cette même nuit ou plus tard le 16 août 1945. Enfin, l'Indonésie a proclamé son indépendance le 17 août 1945. Le 15 août 1962, les Pays-Bas et l'Indonésie ont signé l'accord de New York. Cet accord est initié par les États-Unis en 1962 pour le transfert de l'autorité sur la Papouasie occidentale des Pays-Bas à l'Indonésie. L'accord de New York et les efforts indonésiens de s'emparer de la partie occidentale de la Papouasie des Pays-Bas. Lors de la conférence de la table ronde à La Haye, quand la reconnaissance de la souveraineté indonésienne par les Pays-Bas, on a dit que le problème de la Papouasie occidentale sera achevé dans un an, après la conférence de table ronde, mais jusqu'en 1961 non résolu. En 15 août 1962, on a publié l'accord de New York sur la livraison de la Papouasie occidentale à partir des Pays-Bas par l'autorité exécutive temporaire des Nations Unies. Le 1er mai 1963, la Papouasie occidentale retourne à l'Indonésie. La position de la Papouasie occidentale est devenue plus certaine après on a fait le référendum populaire en 1969. Les habitants de la Papouasie occidentale ont choisi de rester dans la nation indonésienne. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Pancasila serait un rempart contre les idéologies étrangères ». Le président indonésien Joko Widodo a déclaré samedi au Palais Bogor, au lancement du programme de renforcement de l'éducation Pancasila, que beaucoup de gens pensaient que la lutte idéologique dans le monde était terminée parce que le mur de Berlin en Allemagne était en ruine et après la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc Est. Selon le président, la guerre idéologique n'est pas terminée, même d'une manière différente, telle que la musique, la danse, la culture et l'économie. Par conséquent, le président a demandé aux Indonésiens d'être prudents. Cela a été déclaré par le président devant l'agence 540 étudiants et professeurs de 510 représentants des universités publiques et privées dans toute l'Indonésie, comme rapporté par Antara. Selon le président, l'idéologie Pancasila peut être redirigée vers les idéaux du peuple indonésien et endiguer l'infiltration des idéologies de l'extérieur. Le président a également expliqué l'unité de travail présidentiel de consolidation de l'idéologie Pancasila, ou UKPPIP, livrera ce qui devrait être fait pour l'infiltration de l'idéologie de l'intérieur peut être arrêtée et la bataille idéologique peut être gagnée par l'Indonésie. L'ancien gouverneur de Jakarta a également rappelé que le monde d'aujourd'hui change très rapidement et cette transition doit être anticipée. 5 jusqu'à 10 ans à venir, la génération W et génération I influenceront la politique, le marché, l'économie et social. Tout va changer parce que tout ce qui affecte les jeunes existe à leurs mains, à savoir les smartphones, les téléphones portables et gadgets. Selon le président, il y a déjà le changement. Par conséquent, l'Indonésie doit se renforcer avec les valeurs de caractère de la nation et religion. La lutte idéologique, infiltration idéologique à travers les médias sociaux, Facebook, Instagram, blog vidéo, Twitter et les autres. Le président a également demandé aux étudiants d'écrire sur Pancasila et rappeler au pluralisme indonésien. Le gouvernement doit inviter toutes les parties à participer à ce grand travail. Selon lui, l'université, organisations religieuses, organisations de jeunes, tous doivent travailler ensemble pour reconstruire le coaching de l'idéologie Pancasila. Chers amis, c'est la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Lié au développement des régions frontalières au sein du gouvernement Joko Widodo Yusuf Kalla a produit des résultats concrets et tangibles, en particulier dans les zones frontalières. Le secrétaire de l'Agence nationale de la gestion frontière, BNPP, Hadi Prabowo, dans le dialogue avec la Voix d'Indonésie à Jakarta mardi, a affirmé « Bien qu'il y ait les nombreux obstacles, mais peu à peu, à la fois liés à la construction des infrastructures et des installations sociales de base, l'économie liée au secteur excellent, y compris les installations et la région soutenant, peuvent être déjà réalisées. »
Yang pasti sudah merasakan baik itu kaitannya.
Ce qui aurait été ressenti vraiment, que ce soit lié à l'infrastructure ainsi que lié aux besoins sociaux de base, parce que la région d'Indonésie est très spacieuse, si bien qu'on ne peut donc pas construire l'Indonésie en coupe d'œil. le conséquent, dans le plan national de développement à moyen terme, ou RPGMN 2015-2019, a confirmé la façon de réaliser la région dans les zones frontalières comme première phase qui est capable d'être des activités socio-économiques avec les pays voisins. Hadi Prabowo a ajouté que le potentiel de la région frontalière est énorme. Cependant, ce potentiel ne doit pas être utilisé de façon optimale. En raison du facteur géographique et une très large gamme de contrôles, mais dans la mise en œuvre des politiques du président Joko Widodo, liées au développement de l'Indonésie de la périphérie en renforçant les régions et les villages pour renforcer l'unité du pays, a produit des travaux réels, entre autres la construction des routes parallèles dans la région frontalière de Kalimantan, Nusa Tenggara de l'Est et la Papouasie. Ensuite, associé à la souveraineté alimentaire qui a également produit dans le cadre de créer les CHAM et en ce qui concerne d'autres agricultures comme de Sabang, de Sanghe, a déjà montré que nous avons développé leur industrie de la pêche et le tourisme. Le président Joko Widodo a transmis l'effort de développement qui est effectué par le gouvernement pour être en mesure de rivaliser avec d'autres pays à l'époque millénaire aujourd'hui. Dans une conférence publique à l'Université de Muhammadiyah, Jember, dimanche, le président a dit que ces efforts comprennent le développement des infrastructures dans les différentes régions d'Indonésie. Le président a affirmé que le développement de l'infrastructure qui était fait est une base importante de la nécessité pour être compétitif sur la scène mondiale. Cependant, le président a ajouté les aspects les plus importants qui attirent l'attention du gouvernement sont l'aspect du développement des ressources humaines. En réalisant le développement des infrastructures et des ressources humaines, le président Joko Widodo est optimiste que l'Indonésie sera en mesure de soutenir la concurrence sur la scène mondiale.
Dalam menyelesaikan nantinya kita berkompetisi.
Pour terminer, nous rivalisons avec d'autres pays. Nous avons besoin de l'infrastructure, il est fondamental. Pourquoi devons-nous construire les autoroutes, les routes, le port, l'aéroport, construire des centrales électriques? Parce que c'est la clé, clé de base, clé primaire, de sorte que nous avons le concurrentiel. En second, si cela est presque terminé, nous entrerons dans la deuxième grande phase, à savoir le développement des ressources humaines massives. Voilà ce que nous devons faire. Si les deux ont terminé, nous sommes entrés dans la phase de l'industrie, la phase du service, la phase de l'information technologique. Il sera plus facile parce que les bases sont déjà solides. Le gouvernement indonésien est actuellement en course de mettre en œuvre activement le développement des infrastructures dans les différentes régions d'Indonésie. En 2017, le gouvernement a alloué un budget de plus de 300 trillions rupiah pour le développement des infrastructures. Lié au développement des ressources humaines, l'un des aspects qui est actuellement mené est d'améliorer la qualité des étudiants et des élèves par l'enseignement professionnel dans les écoles. À la fin de la conférence publique qu'il a prononcée à l'Université de Muhammadiyah Jember, le président Joko Widodo espère que le public peut connaître les efforts faits par le gouvernement. Selon lui, bien que le développement des infrastructures soit visible, mais le développement des ressources humaines demeure une priorité. Le président indonésien Joko Widodo, en tant que chef de scout indonésien, a donné un discours au 56e anniversaire du scoutisme indonésien et 11e Raimuna du scoutisme indonésien, qui a lieu du 13 au 21 août 2017 au camp de Cibubur, à l'est de Jakarta. Le président a demandé aux membres des scouts indonésiens de ne pas seulement former le grimant, mais il faut faire aussi des percées, de ne pas penser de manière linéaire et de ne pas se coincer dans les routines pour anticiper les changements mondiaux. Selon le président, le devoir de garder les scouts pour avoir toujours un esprit jeune est en fait sur les épaules de la jeunesse indonésienne.
Usia gerakan pramuka semakin bertambah, tapi saya minta semangatnya.
Bien que l'âge de scout augmente, mais je vous demande l'esprit de rester jeune. Il doit toujours être productif au travail, doit être novateur, doit être créatif et doit toujours être à l'avant-garde de maintenir l'état unitaire de la République d'Indonésie. Le scout doit être le précurseur du changement dans notre pays que nous aimons. Parce que vous devez vous rappeler que le scout est le roi des effets, ce qui signifie qu'il a toujours une jeune âme qui aime travailler. Le président Joko Widodo a affirmé la tâche de garder le scoutisme pour garder les jeunes d'esprit. Et nous devons nous rappeler la génération de scouts et la génération Y. Et le mode de pensée est différent de la génération précédente. La génération est créative et innovante, générer le sentiment fier de la jeune génération dans leur pays d'origine. Ils croient que la jeune génération de l'Indonésie est une génération supérieure et combattante. Le 56e anniversaire de Scout indonésien, également assisté par le 5e président de l'Indonésie, Megawati Soekarnoputri, le commandant en chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, le chef de la police, le général Tito Karnavian, un certain nombre de ministres et membres du Parlement indonésien. Le chef de l'armée nationale indonésienne, TNI, le général Gatot Nurmantio, a déclaré dans un communiqué de presse mardi à Jakarta que le pays étranger était très intéressé à affaiblir l'unité et l'intégrité de l'Indonésie et de diviser le pays. Les pays étrangers utilisent la question de l'intolérance pour atteindre ses objectifs. Par conséquent, la jeune génération d'Indonésie doit être un pionnier dans la mise en œuvre des valeurs Pancasila dans la vie quotidienne. Ainsi, l'unité de la nation doit être maintenue dans l'état unitaire d'Indonésie. Basée sur l'histoire et l'anthropologie culturelle, l'Indonésie, y compris sa jeunesse, est un groupe de guerrières et patriotes. À cette fin, Gatot Nurmantio croit que l'Indonésie ne pouvait pas être divisée pendant que les jeunes appliquent le Pancasila. Le ministère de l'Industrie organise l'exposition des produits excellents indonésiens avec le thème Exploration de la culture indonésienne qui est riche en diversité culturelle et les coutumes et tirer parti des connaissances locales à la valeur économique élevée. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartanto, lors d'ouverture de l'exposition, a déclaré lundi que l'exposition dans le cadre de la journée de l'indépendance vise à promouvoir la culture. L'ouverture de l'exposition, qui a été également assistée par l'épouse du vice-président Mufidah Yusuf Kalla, présente un défilé de mode sous la forme de batik, du tissage traditionnel, la danse traditionnelle, des chansons traditionnelles et la culture traditionnelle typique de l'Indonésie. Airlangga Hartanto a dit, au milieu de la concurrence mondiale, certains produits indonésiens sont capables de compétitivité et contribuent de manière significative au commerce mondial. Il a ajouté que l'excellence de l'Indonésie qui avait été atteinte entre autres comme le 14e plus grand exportateur de vêtements dans le monde et 3e à l'ASEAN avec la valeur des exportations atteignant 7,1 milliards de dollars américains en 2016. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous. Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, je vais présenter Rituel de Umbiru. La communauté Manggarai orientale respecte et honore Duri comme mère de la terre. Pas moins de 90% des habitants de Manggarai orientale travaillent comme agriculteurs au terrain et aux rizières. Ils vivent en harmonie avec la nature. Tout ce qui concerne planter de différents types d'horticulture est toujours précédé par les rituels traditionnels qui honorent l'univers et Dieu, le Créateur. Par conséquent, ce n'est pas étonnant que les habitants de Manggarai orientale possèdent une variété de rituels traditionnels liés à l'agriculture. Il y a le rituel Werimatani, ou remerciement à la graine de riz, ritualisé avec du sang de poulet. Il y a aussi le rituel Pasak Matani, où planter les graines de riz et les graines de maïs qui ont été bénies par la coutume. Il y a une expression rituelle Raut Kalang, ou arraser de l'herbe à l'écart du riz. Et il y a aussi le rituel Umbiru, qui est effectué au bord des champs ou bien le riz a commencé à contenir. Le rituel Umbiru est toujours effectué par les agriculteurs à Manggarai orientale, notamment au village de Mbengan, Ranakolong, Gunung Baru et Wengdo autres villages. Le rituel Umbiru est un rituel pour demander à l'univers de riz à grains longs et les grains en abondance. Dans la langue locale, Umbi signifie tirer et Ro est le nom d'une corde qui vit et pousse dans la forêt. Ainsi, ce rituel est comme le concours de tir à la corde. C'est unique, ce qui fait Umbiru et les femmes contre les hommes en portant leur robe traditionnelle locale, songki, foulard et destar ou couvre-tête. Lorsque ce rituel est exécuté, les chansons associées à tout le riz accompagnant le rituel. Avant le rituel, Umbiru est effectué au bord des champs. D'abord, les offrandes sont présentées à la nature. Les ancêtres et Dieu, le Créateur, sous forme de poulet, des cochons et de chèvres, ainsi que d'autres objets. Le rituel Umbiru est lancé pour demander l'univers, les ancêtres et Dieu, le Créateur, afin de fournir une récolte abondante et de garder le riz de manipulation des esprits fins. Ce rituel a créé l'enchanteur de Manggarai orientale parce que dans le temps ancien, toujours proche de la nature humaine et tout ce qui concerne l'univers. Cette tradition a ensuite été transmise aux générations suivantes jusqu'à ce qu'au moment de cette technologie agricole moderne. Jusqu'à présent, les populations locales organisent le rituel Umbiru au bord du champ lorsque le riz commence à fleurir et se déroule habituellement en mars. Jusqu'à présent, le rituel associé avec du riz, du maïs, comme le rituel Umbiru, fait sous la forme de danses qui se sont développées par les étudiants et les enseignants à l'école primaire locale. Ils ont continué à travailler pour préserver la sagesse locale de Manggarai orientale. La tradition de Umbiru, même récemment, ont eu lieu par le peuple de Manggarai orientale lors de dîners de gala de course cycliste internationale Tour de Flores. À cette époque, plusieurs 30 étudiants et élèves des écoles élémentaires présentent la danse Umbiru à la place de Muara Borong. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé Rituel de Umbiro. Merci à tous et à bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, voici la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est extracurriculaire. Je répète, extracurriculaire ou en français, activité périscolaire. Comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire le vocabulaire et expression liés au thème d'aujourd'hui. Extracurriculaire. Extracurriculaire. En français, périscolaire. Setiap Sabtu. Setiap Sabtu. En français, chaque samedi. Kegiatan. Kegiatan. En français, activité. Bola basket. Bola basket. En français, basketball. Bola volley. Bola volley. En français, volleyball. Bulu tangkis. Bulu tangkis. En français, badminton. Karaté. Karaté. En français, karaté. Drama. Drama. En français, théâtre. Tari-tarian. Tari-tarian. En français, danse. Semoga. Semoga. En français, souhaite. Pemain basket. Pemain basket. En français, joueur au basket. Handal. Handal. En français, fiable. Rajin berlatih. Rajin berlatih. En français, courageux pour s'entraîner. Tingkat nasional. Tingkat nasional. En français, niveau national. Mettons le vocabulaire et expressions vont vous être donnés sous la forme d'une conversation entre Bob, A et Adi, B. A. Aku lihat kamu setiap Sabtu masuk sekolah. Aku lihat kamu setiap Sabtu masuk sekolah. En français, je vois que tu vas à l'école chaque samedi. B. Ya benar, Sabtu ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya benar, Sabtu ada kegiatan extracurriculaire. En français, oui, tu as raison, il y a des activités périscolaires. A. Kegiatan apa saja? Kegiatan apa saja? En français, quelles activités? B. Ada bola basket, bola voli, bulu tangkis, karate, drama, dan tari-tarian. Ada bola basket, bola voli, bulu tangkis, karate, drama, dan tari-tarian. En français, il y a du basket, du voli, du badminton, du karate, du théâtre, et de la danse. A. Kamu pilih ekstrakurikuler yang mana? Kamu pilih ekstrakurikuler yang mana? En français, quelle activité périscolaire tu as choisi? B. Bon, la basket. En français, le basket. A. Semoga kamu menjadi pemain bola basket yang handal. Semoga kamu menjadi pemain bola basket yang handal. En français, espérons que tu deviendras un basketteur fiable. B. Ya, aku harus rajin berlatih. Ya, aku harus rajin berlatih. En français, oui. Je dois m'entraîner avec courage. A. Sudah pasti. Semoga menjadi juara tingkat nasional. Sudah pasti. Semoga menjadi juara tingkat nasional. En français, c'est certain que tu peux devenir un champion national. B. Terima kasih. En français, merci. Chers amis, ainsi se termine votre programme Apprendre l'Indonésien. Merci à tous et à demain.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à notre antenne La Voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le magazine musical. Nous avons déjà sélectionné des chansons de dangdut chantées par Dewi Persik. Elle est l'une des chanteuses de dangdut et un succès dans l'industrie de musique indonésienne. Dewi est également une actrice de film. Elle est connue pour sa chanson intitulée Vedette. On écoute la première chanson intitulée Voix de cœur. Bonne écoute.
Kasihku, dengarlah suara hati ini. Hidup sepi, tiada gairah ku rasa lagi. Aku merana, merana, merana tanpa dirimu. Aku merana, merana, merana tanpa cintamu. Kekasihku, tinggallah di sini temanku. Selamanya sampai nanti aku menutup mata. Aku merana, merana, merana
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée « Voix de cœur ». Le nouvel single de David Persic est la chanson originaire de Lente. Dans son pays d'origine, la chanson est intitulée « Muskurane » et créée par Jet Ganguly ou Rashmi Singh. Quand la chanson était chantée par David Persic, les paroles ont été changées par Don Kinol. La chanson a également tendance à être mélodieuse. Cette chanson raconte la peur de quelqu'un d'être abandonné par son amant. Bon, chers auditeurs, avant de mieux connaître David Persic, écoutons d'abord la chanson suivante intitulée « Tout pour l'amour ». Bonne écoute.
Akan menyerah walau terhina.
sintonisée toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.